tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour, bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, plus que jamais au croisement de la rue de Coulmiers et de la rue d'Allonville. Une terrasse, le soleil, autrement dit le paradis sur terre de l'apéro. C'est ici que nous enregistrons et que nous enregistrerons encore jusqu'à la fin de la saison la chronique de la LDH Nantes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du droit constitutionnel, autrement dit les droits qui font notre démocratie et protègent nos libertés. Pour en parler, nous avons avec nous Jean-Michel Ducomte, juriste et adhérent à la LDH, et Antoine Delblon, professeur de droit à la faculté de Nantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons comme d'habitude faire un petit tour d'horizon de l'activité ou et de l'actualité de la section en faisant un focus sur le groupe de travail femmes. Élodie, c'est à toi.
Oui, donc le groupe de travail des femmes co-organise la manifestation du 8 mars, je vous le rappelle, 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Donc rendez-vous le 8 mars à Nantes, dans la rue.
Une première question. Quel a été, s'il vous plaît, le contexte d'écriture de notre Constitution actuelle ? Jean-Michel.
Alors, contexte, je le résumerai par deux mots. Ça a été le produit d'un coup d'État militaire raté et d'une détestation. C'est le général Massu qui... souhaitant un peu mettre un terme à la 4e République, à fomenter ce qui était un début de coup d'État, dont, disait-il, la solution ne pouvait passer que par le retour du général de Gaulle au pouvoir. La détestation, celle du général de Gaulle, qu'il a exprimé très clairement dans son discours de Bayeux en 1946, qui est une détestation à la fois du régime parlementaire et du régime d'assemblée. Donc, c'est un petit peu les deux composantes qui font qu'à un moment déterminé, on a décidé de passer de la 4e à la 5e République, selon des modalités d'ailleurs un petit peu complexes.
Alors justement, qu'est-ce qu'il a défini ?
La 5e République ?
Oui.
C'est une restauration de l'autorité exécutive, notamment du président de la République. Au départ, il n'est pas élu au suffrage universel, mais en clair, le général de Gaulle considère que sa légitimité historique supplée à l'absence de suffrage universel. Elle se caractérise aussi par un encadrement de la fonction législative et par une ignorance, mais qui a traversé un petit peu les régimes et les siècles, à l'égard du pouvoir judiciaire.
D'accord. Antoine, tu veux rajouter quelque chose par rapport à...
Oui, Jean-Michel a très bien expliqué le contexte. Ce que je pourrais dire pour compléter, c'est qu'il y a un contexte politique, mais aussi militaire, avec la guerre d'Algérie qui a joué beaucoup d'importance dans ce contexte-là. Alors, d'abord, politique, la 4e République, c'est un régime parlementaire, mais vraiment parlementaire, mais qui est très instable. Les gouvernements durent 6 mois, 8 mois, et donc la population a le sentiment d'une instabilité politique. Sur cela vient la guerre d'Algérie,
oui.
Donc qui a duré de 1954 à 1962, et effectivement, il y a un carteron de généraux qui font un coup d'État. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Mm-hmm. En mai 1958, donc Charles, Zeller, Salan, Jouot, ils font un coup d'État qui est raté. Et donc, en contrepartie de ce coup d'État, le général de Gaulle, qui à l'époque est Premier ministre, on dit président du Conseil, il a les pleins pouvoirs en juin 1958 pour préparer une constitution. Et après, donc une fois qu'il a... Il pense plutôt à un régime présidentiel au départ, mais ça a été amendé. Et le 28 septembre 1958, le peuple français, par référendum, adopte la nouvelle constitution, qui est donc la constitution...
actuelle.
Voilà, 5 octobre 1958.
Et qui a été écrite par qui alors, précisément ?
Elle a été inspirée par le général de Gaulle, parce qu'il voulait vraiment sa volonté... c'était d'avoir un gouvernement, un pouvoir qui
plus
pouvait...
Fort.
Plus fort, en tout cas au moins efficace, qui ne soit pas constamment remis en cause, renversé par les parlementaires. Et puis il y a l'influence prépondérante de Michel Debré. Michel Debré, ça a été un grand juriste de... Oui. Et on salue la mémoire de son fils, qui vient de décéder d'ailleurs.
Oui.
Donc ça a été un grand juriste de la Ve République, et c'est lui qui a trouvé des mécanismes pour encadrer le pouvoir des parlementaires.
D'accord. Et alors, quel est le rôle de notre Constitution dans notre démocratie actuellement ?
Ben, comme dans tous les régimes politiques, la Constitution, c'est un petit peu le squelette. Ce sont les institutions qui permettent au pouvoir public de fonctionner. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Constitution de la Ve République a été un facteur d'amélioration de la démocratie en France ? Je ne me prononcerai pas là-dessus, parce que je pense que ce serait aller un petit peu loin. La question démocratique n'était pas posée en 1958. La question qui était posée, c'est celle de l'efficacité de l'action de l'État. D'où l'intérêt, enfin d'où la volonté plutôt, pas l'intérêt, mais d'où la volonté du général de Gaulle de disposer d'une légitimité qui lui permette, et de compétences qui lui permettent effectivement d'aller jusqu'au bout de ce qu'était le projet qui initialement était le sien, à savoir mettre un terme à la guerre d'Algérie et éventuellement organiser des pouvoirs publics qui soient dotés d'une stabilité permettant à ces pouvoirs publics de s'inscrire dans la durée.
D'accord. Et alors, quels sont ces droits précisément dont on parle de droits constitutionnels ? Quels sont ces droits, ces grandes lignes, ces grandes directions ?
Alors, le droit constitutionnel, il recouvre plein de choses. Le droit constitutionnel, c'est effectivement l'étude des constitutions, mais c'est aussi l'étude des régimes politiques, de la pratique politique. C'est une étude également des droits fondamentaux, des déclarations de droits. Sur ce terrain-là, la Constitution de 1958 est originale, puisque elle a ce qu'on appelle une déclaration Croupion.
C'est-à-dire ? Alors,
il n'y a pas de déclaration des droits autonome dans la Constitution de 1958. Elle fait simplement référence, ce qui est déjà pas si mal, à la déclaration du 26 août 1789, donc la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et au préambule de la Constitution de 1946 sur les droits économiques, sociaux, que la Constitution de 1946, le préambule de la Constitution de 1946, considère comme particulièrement nécessaire à notre temps. Donc si on se situe sur le terrain des droits fondamentaux, la Constitution de 1958 rappelle le patrimoine des droits que la France était constituée à partir de la Révolution française.
Et alors, y a-t-il eu des tentatives de modification depuis ? On en a parlé un petit peu en antenne, visiblement il y en a eu un certain nombre, mais quelles sont les principales, peut-être, qu'est-ce qui aurait évolué ?
Oui, alors pour compléter ce que vient de dire Jean-Michel, en fait, il y a un courant qu'on appelle la philosophie politique. Il explique pourquoi les hommes acceptent de se soumettre à un pouvoir, à un gouvernant. Et justement, j'évoque par exemple Emmanuel Kant, qui dit que les hommes ont deux propensions. D'abord se réunir, parce que c'est ensemble qu'ils sont les plus efficaces, qu'ils se protègent. Et puis ensuite de se chamailler. C'est un peu comme chez Astérix, ces deux propensions naturelles. Et donc le pouvoir politique est là pour ça, pour éviter que les hommes s'entretuent. Mais après, une fois qu'on s'est soumis au pouvoir politique... On lui pose des limites. Il ne peut pas tout faire et la Constitution sert à ça. Donc, de manière plus précise, la première liberté, c'est la liberté d'aller et de venir. Le gouvernement ne peut pas s'opposer à cette liberté. Ensuite, il y a la liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, etc. Donc, tout cela est garanti soit par la Constitution, soit, comme disait Jean-Michel, par les textes auxquels elle renvoie.
Quelle est la différence entre la démocratie et l'état de droit ?
Belle question, ça. La démocratie, c'est, alors, je reprendrai la formule habituelle puisqu'elle figure dans la Constitution, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc c'est un mode de gouvernement qui date de l'Antiquité grecque, dans le cadre duquel c'est au peuple, directement ou par ses représentants, mais directement dans l'Antiquité grecque, qu'est dévolu le pouvoir d'élaborer la loi. L'état de droit, c'est quelque chose... qui naît de façon beaucoup plus récente. La notion d'état de droit, elle naît en Allemagne dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est l'idée que le pouvoir peut être limité par le droit et qu'il y a une sorte de patrimoine de dispositions juridiques dont la fonction est d'éviter que le pouvoir ne dépasse les bornes qui sont normalement les siennes, ne portent atteinte à la liberté des individus, à la liberté des associations, à la capacité de chacun de pouvoir respirer l'oxygène de la liberté.
C'est un peu complexe à comprendre, parce qu'il pourrait donc y avoir une démocratie sans état de droit, ou un état de droit qui se fasse sans démocratie ?
Oui. Disons que la démocratie, cela induit des procédures. Mm-hmm. Le vote, plus particulièrement. Qui est-ce qui dit que le vote est libre dans son expression ? Il y a eu des démocraties populaires qui, à un moment déterminé, ont existé. Il y a des démocraties illibérales à l'heure actuelle. On considère qu'on leur donne le nom de démocratie, mais elles ne fonctionnent pas dans une logique de respect de l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est quand même un guide important dans la sauvegarde des libertés, dans la sauvegarde des droits individuels et collectifs. Il a pour fonction d'établir ces barrières que le pouvoir doit respecter lorsqu'il agit. Et j'ai personnellement été un peu choqué de voir un ministre de la République considérer que l'état de droit était anecdotique. Non, il est essentiel dans un régime dit démocratique.
Y a-t-il eu des tentatives de modification par des personnalités politiques de la Constitution et des droits constitutionnels ?
Oui, il y a un courant réformateur en France. On parle éventuellement même, certains hommes politiques parlent de la 6e République, pour dire en fait qu'on est arrivé à une échéance finalement dans le fonctionnement de la 5e, de la Constitution de 1958, et qu'il faudrait changer un certain nombre de choses, et notamment la toute-puissance du président de la République. Donc oui, il y a en France un courant, notamment du côté de la gauche, il y a un courant qui est réformateur par rapport à la 5e République.
La Constitution de 58 a fait l'objet elle-même de 25 révisions, dont 3 essentielles. 62 élections du président de la République au suffrage universel, 2000 quinquennat et 2008 modification importante de la compétence du Conseil constitutionnel avec les questions prioritaires de constitutionnalité. Donc, alors, petit détail sur la 5e République, 6e République, moi ça me fait toujours un peu sourire parce que je ne sais pas si la 5e existe et je ne sais pas si la 5e existe encore. La 5e République en fait n'existe pas comme constitution puisqu'elle a été élaborée dans le cadre d'une révision de la constitution de 1946. Elle a été révisée au terme de la révision de la procédure de révision de la constitution de 1946.
S'il y avait une 5e, comment savoir quelle serait la modification qui amènerait vers cette 6e République ?
Mais il n'y a pas de 6e.
Comment
la 5e n'existe plus. Alors, le problème, c'est qu'elle n'existe pas, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle n'existe plus puisque l'élection au suffrage universel et l'introduction du quinquennat quelques temps plus tard ont modifié complètement l'esprit de la Constitution. Oui. Donc la nature du régime politique de 58 a complètement été changée par les différentes révisions constitutionnelles.
Donc c'est une constitution évolutive, en fin de compte.
C'est la seule constitution française qui soit évolutive. La seule qui était soumise à une véritable révision.
Pas de soucis, pas de ça, sans soucis, sans cela. Pas de fumée, sans feu, pas d'idée, sans être deux.
Pas de si,
pas de sang,
sans soucis ou sans cela. Pas de fumée, sans feu, pas d'idée, sans être deux.
Pas de si, pas de sang,
sans soucis ou sans cela. Pas de fumée, sans feu, pas d'idée, sans être deux.
Pas de vie sans vitamines, pas de repas sans aliments, pas d'aliments sans cuisine, pas de cuisine sans maman, pas de goûter sans tartine,
pas de cantine sans Vincent,
pas de maths sans exercice, pas de parvo sans parmon, pas de merveilleux sans Alice, pas de monde sans démon, pas de démon sans malice,
pas de curé sans sermon,
pas de si,
pas de ça,
sans souci ou sans cela, pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas de si,
pas de ça, sans souci ou sans cela, pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas de Gaulois sans Astérix, pas de Mowgli sans Balou, pas d'Astérix sans Obélix, pas de Donald sans Picsou, pas d'Obélix sans idée fixe,
pas de Tintin sans Milou,
et pas de lande sans échasse, pas de chasse sans chasseur, pas de chasseur sans chaîne de chasse, pas de chaussures sans chausseur, sans chahuteur, pas de classe,
sans chanson, pas de chanteur,
pas de si,
pas de sang,
sans souci ou sans cela, pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas de si, pas de sang,
sans souci ou sans cela, pas de fumée sans feu, pas d'idée sans être deux,
pas de lande.
lapin sans carotte, pas d'histoire sans géo, pas de petite poussée sans bottes, pas de forêt sans animaux, pas de cote-cote sans cocotte,
pas de coq sans cocorico,
pas d'Europe sans euro, pas de Japon sans manga, pas de masque sans euro, pas de Samson Dalila, pas d'histoire sans héros,
pas d'aventure sans hasard,
pas de ci,
pas de ça,
sans souci ou sans cela, pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas de ci,
pas de ça,
sans souci ou sans cela,
pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas de triangle sans côté, pas d'auto sans carcasson, pas de rectangle sans carré, pas d'anglo sans des saxons, pas d'Angleterre sans thé,
pas de go de France sans bouillon,
pas d'école sans maîtresse, pas de devoir sans cahier, pas de presse sans princesse, pas de présent sans passé, pas de derrière sans des fesses,
pas de bisous sans mauvais,
pas de si,
pas de sang,
sans souci ou sans cela,
pas de fumée sans feu, non
pas d'idée sans être deux,
pas de si, pas de sang,
sans souci ou sans cela,
pas de fumée sans feu,
pas d'idée sans être deux,
pas de si, pas de sang, sans souci ou sans cela, pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas de si,
pas de sang,
sans souci ou sans cela,
pas de fumée sans feu,
pas d'idée sans être deux.
Pas de sang,
sans souci ou sans cela,
pas de fumée sans feu, non
pas d'idée sans être deux,
pas de si, pas de sang,
sans souci ou sans cela,
pas de fumée sans feu, non pas d'idée sans être deux,
pas d'idée sans être deux.
Le gouvernement actuel est-il en mesure de porter des atteintes à la Constitution ainsi qu'à notre démocratie? Jean-Michel, Antoine, qui se lance?
Alors, notre démocratie est basée sur un principe qui est la séparation des pouvoirs, c'est dit explicitement dans la Constitution, c'est-à-dire que c'est inspiré par un philosophe politique, justement, qui s'appelle Montesquieu. Donc, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. En principe, ça fonctionne. C'est-à-dire que le gouvernement, celui qui a le plus de pouvoir, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Et donc, il est contrôlé par les parlementaires, pouvoir législatif, et il est jugé a posteriori par le pouvoir judiciaire. Sauf que en France, il n'y a pas de véritable pouvoir judiciaire. Contrairement à ce qui peut exister dans d'autres États, la Constitution évoque une autorité judiciaire. Donc, effectivement, certains, à partir de là, disent que le gouvernement pourrait porter atteinte aux libertés. Mais je crois que d'une part, il y a quand même des mécanismes qui permettent de protéger les libertés individuelles. Il y a ce qu'on appelle, de manière traditionnelle, l'habeas corpus, par exemple. L'habeas corpus veut dire qu'à partir du moment où une personne a été arrêtée, quelle qu'elle soit, elle doit être conduite à un juge, immédiatement. Elle doit être transmise à l'autorité judiciaire. Et puis, de toute façon, il y a les résistances populaires. Donc, ça, c'est aussi un contre-pouvoir très efficace.
D'accord, mais alors justement, qui dit résistance populaire dit par exemple, notamment dans le droit, enfin le droit à la manifestation. Et par exemple, on a vu qu'il y avait eu des interdictions de manifester, je pense notamment au cas de la Palestine. Est-ce qu'on ne peut pas voir justement une remise en question des libertés à travers cela?
Oui, bien évidemment. Mais ces interdictions ont été la plupart du temps soumises au contrôle des tribunaux. Et il y a toute une série de décisions d'annulation de ces interdictions de la part du juge administratif, du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs, qui démontrent que même s'il n'y a pas de pouvoir judiciaire, les autorités judiciaires ou juridictionnelles ont progressivement, notamment sur le terrain administratif et plus modestement sur le terrain constitutionnel, acquis une véritable autorité. Et les citoyens savent que ils peuvent s'adresser, selon des modalités parfois un petit peu complexes, à ces autorités afin de trancher des atteintes aux droits dont ils sont victimes.
Oui, mais alors si il y a une interdiction de manifester qui est posée, le délai de réaction et d'annulation de l'interdiction arrive après la manifestation en question. Il y a un mécanisme un petit peu retors qui peut se mettre en place.
Ah oui, non, mais c'est on a vu des interdictions qui étaient formulées dans les heures qui précédaient la manifestation. C'est une mauvaise manière qui est faite à la démocratie de la part des préfets ou de la part des autorités politiques, essentiellement autour du ministère de l'Intérieur, qui est un petit peu le garde-chiourme de l'ordre public. L'ordre public qui, pour les juristes que nous sommes, est toujours considérée comme une sorte de limitation contrôlable au principe qui est celui de la liberté. La liberté, c'est le principe, et la restriction de police, c'est l'exception. C'est du moins ce qu'on enseigne à nos étudiants.
Voilà, elle devrait être l'exception. Je pense, si on prend au cas précis de Nantes, je pense à la préfecture de police qui expérimente une nouvelle procédure visant à identifier les étrangers en situation régulière ayant commis des troubles à l'ordre public. C'est quand même quelque chose qu'on a pu lire dans les journaux dans Ouest-France il y a à peu près une semaine. Là, on sent qu'il y a quand même un véritable danger, un véritable glissement. Ou est-ce que le droit constitutionnel peut justement prévenir de tout cela ?
C'est du racisme institutionnel. Enfin, je m'excuse de la formule que je trouve peut-être un petit peu excessive. Effectivement, dans la mesure où la motivation de l'autorité, c'est précisément d'assurer un repérage d'étrangers, ça correspond à une sorte de mauvaise manière qui est faite au fondement de la démocratie française, notamment au fondement en termes de droits humains de la démocratie française.
Donc, y a-t-il un danger ? Parce que dans les fondements, je pense aussi à la loi immigration, je pense à la remise en question de l'aide médicale d'État, je pense aussi à la préférence nationale, où là, on peut parler de loi xénophobe aussi, je pense, non ?
Les juristes font référence à la notion d'ordre public pour prendre des décisions qui limitent la liberté, mais il n'y a aucune définition de l'ordre public. Il y a un juriste anglais qui s'appelait Lord Dunning qui disait « L'ordre public is, en anglais, unruly horse », un cheval emballé. C'est-à-dire que n'importe quelle situation est laissée à l'appréciation du ministre de l'Intérieur pour prononcer ou pas une interdiction. Donc ça, c'est quand même un point... je ne sais pas si on peut faire autrement, mais c'est quand même un point qu'il faut savoir. C'est l'autorité de police qui apprécie dans quelle mesure l'ordre public est menacé. Après, effectivement, comme disait votre collègue, si la mesure d'interdiction vient à un moment crucial, après, c'est difficile de réparer le mal qui a été fait. Mais il y a quand même des procédures d'urgence, notamment les juges administratifs en France ont la possibilité de prononcer l'interdiction d'une mesure qui porte atteinte aux libertés dans les 48 heures.
D'accord. Et donc, il y a une différence, notamment en droit constitutionnel. Est-ce qu'on peut faire une comparaison par rapport à d'autres pays qui fonctionnent de la même façon ou à des différences, justement, au niveau européen, par exemple, au niveau du droit constitutionnel ?
Oui, il y a des cultures un petit peu différentes. Mais on se rend compte que ce n'est pas tellement la culture dominante d'un pays qui est un marqueur du rapport que le pouvoir a avec les libertés publiques. C'est souvent la conséquence de l'émergence de majorités politiques au sein du Parlement. Et par exemple, un pays que je connais bien, comme la Hongrie, qui pendant un certain temps, au sortir de la dictature communiste, a pratiqué la démocratie, il a suffi que le parti de M. Orban arrive au pouvoir pour que, sans au départ modifier la Constitution, mais simplement par des lois, qui ont réduit le pouvoir des juges, qui ont introduit des éléments notamment identitaires dans l'accès à tel ou tel type de droit pour que la démocratie devienne illibérale.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite habitude qui se prend de jouer l'intimidation avec le droit, qui aurait tendance à porter ses fruits et à faire reculer l'efficacité du droit ?
Alors c'est vrai que, pour revenir à la notion d'état de droit,
oui,
on devrait écrire ça avec une majuscule « état de droit », c'est-à-dire c'est l'état soumis au droit. Ce n'est pas une situation vers laquelle on tend avec une minuscule, c'est l'état, la puissance de l'état soumise au droit. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des situations où on sent que les pouvoirs publics vont au-delà de ce qui était nécessaire dans la contrainte des gouvernés, mais à ce moment-là, il y a des contre-pouvoirs. On parle du quatrième, du cinquième pouvoir, la presse. Dans notre pays, on a la chance d'avoir des médias, pas tous, mais un certain nombre de médias, merci JTFM, qui sont indépendants, qui peuvent faire passer des messages. Il y a le droit de manifester qui s'exprime. Donc oui, il y a des risques. C'est la propension naturelle des gouvernants d'aller au-delà de ce que leur permet de faire la loi. mais il y a quand même des contre-pouvoirs et on a la chance de pouvoir en disposer.
Et n'oublions pas aussi, de temps en temps, on parle état de droit. Les politiques, des fois, ont tendance à dire « attention, on est dans un état de droit » pour parler de la population, mais en oubliant aussi que l'état de droit, il est aussi valable pour eux.
Alors, le danger, c'est qu'on transforme l'état de droit en état du droit. Et que l'on considère que c'est parce que le législateur a décidé telle ou telle chose que ce qui a été décidé dispose d'une légitimité au regard de ce qu'est le principe même de l'état de droit. C'est tout le problème de savoir qui est-ce qui, par exemple, est en mesure, et en France on a une insuffisance en la matière, de contrôler le travail du législateur. Lorsque le législateur adopte des lois qui sont des lois liberticides, bah, certes le Conseil constitutionnel existe, mais son pouvoir de réformation ou d'annulation reste encore aujourd'hui assez limité.
Quelle place prend la LDH au national et au local dans le travail et la préservation de ces droits dont nous parlons depuis tout à l'heure ? Jean-Michel, Antoine ?
Je commence, mais je pense que la LDH, et ça fait partie de son histoire et de son ADN, connaît très bien les procédures au terme desquelles on parvient d'une part à assurer la défense des individus injustement poursuivis. Il y a eu quantité... Une de mes belles filles l'a vécu à Paris et a été relaxée de poursuites qui avaient été engagées à son encontre. Le Monde en a parlé. Les tribunaux administratifs ont également un rôle extrêmement important à remplir, qu'ils remplissent pour l'essentiel. Donc oui, il y a des barrières qui peuvent être érigées contre les abus de pouvoir.
Oui, alors je reprendrai un peu la distinction que j'avais faite tout à l'heure. Parce qu'il y a plusieurs types. La Ligue des droits de l'homme s'occupe de plusieurs types de droits de l'homme. Et c'est vrai que ce concept est intéressant. La notion de droit de l'homme, finalement, c'est un concept qui signifie qu'il y a des droits qui ne sont pas inhérents à l'État, qui ne dépendent pas de la nationalité, qui ne dépendent pas de la puissance de l'État. Ce sont des droits qui sont naturels, qui sont inhérents à chaque personne. Et donc, effectivement, c'est la liberté d'aller et de venir, la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté de religion, la liberté de se marier, etc. Et c'est important que, au jour le jour, il y ait des associations comme la Ligue qui soient là pour rappeler à l'État que ces droits-là existent, qu'il faut les respecter. Et donc, oui, je salue le travail de la Ligue sur ce domaine-là.
Tous les êtres humains naissent libres. Ego.
C'est sur ces mots salvateurs que s'achève notre chronique. Merci beaucoup à Jean-Michel et Antoine, mais aussi à Élodie et tout spécialement à Émile qui a assuré le direct au bar Personne. Ce mois-ci au bar Personne, vous aurez cabaret, karaokid et concert. Et spécialement le week-end des 22 et 23 mars, un abracadabar avec le samedi en fin d'après-midi, un goûter magique et le dimanche après-midi, un babyloscope. Si vous avez des questions ou des réponses d'ailleurs à la chronique, n'hésitez pas à nous écrire à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici le prochain plateau à 18h30 le mercredi 4 avril, toujours au bar Personne, sur le thème cette fois-ci des libertés numériques, nous vous souhaitons à toutes et tous de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.